Dime qué son los secretos de tu alma.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, préparée par Marie Dalquier, réalisée par Clotilde Pivin. Christian Bobin, bonjour.
Bonjour.
Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les deux. Alors, il me revient la charge, Christian Bobin, de vous présenter, mais quand j'ai voulu préparer cette présentation, je me suis dit, mais peut-on présenter un poète? Et le mieux, c'est peut-être de le lire, et c'est là qu'on le rencontre le mieux, ou alors, comme on l'a fait aujourd'hui, de venir chez lui, à sa rencontre, et d'écouter sa voix, cette voix dont vous parlez si souvent. À la fois évidemment de la vôtre, mais la voix de tous les poètes qui vous habitent et qui vous ont formé, mais la voix aussi de la nature, des choses, de tout ce qui est. Et donc nous sommes très heureux en fait de ne pas vous présenter et de simplement écouter votre voix.
Cela dit, cher Christian Bobin, nous allons vous demander évidemment de parler de vous. Je sais que vous n'aimez pas trop ça, mais nous allons vous torturer un petit peu,
oui.
Gentiment.
Oui.
Parce que nous souhaitons faire dans cette émission des Racines du Ciel, assez régulièrement,
oui.
des portraits,
oui.
D'invités que nous aimons beaucoup, des écrivains, des poètes. Et donc, en étant chez vous, évidemment, nous avons envie de connaître un peu mieux qui vous êtes, votre parcours. Et on n'est pas le fait qu'on soit à côté du lieu où finalement vous avez toujours vécu, où vous êtes né. C'est pas anodin, c'est que c'est un lieu auquel vous êtes très attaché, une région à laquelle vous êtes très attaché. Donc est-ce que vous pourriez déjà nous dire où est-ce que nous nous trouvons actuellement, exactement, et quel est par rapport à votre enfance, ce que représente pour vous cette région?
On est très proche d'Autun, pas très loin de Dijon, mais plutôt proche d'Autun, et on est à mi-distance d'Autun et du Creusot. C'est-à-dire Autun, une ville qui est endormie, qui ronronne autour de sa cathédrale, comme un gros chat de pierre, et puis le Creusot, alors le Creusot, c'est à mon corps défendant, mais à mon âme au fond heureuse que j'y suis né. C'est un bloc de prose, le Creusot. C'est une ville qui a connu une gloire il y a très très longtemps. C'était une gloire d'acier, c'était une gloire un peu conquérante. Des locomotives, des armes sont sorties des usines là-bas. C'est raccourcissons très vite, parce que le principe d'écrire comme celui de vivre, c'est d'aller vers l'intensité, la densité la plus grande. C'est une rue qui s'appelait la rue du 4 septembre, où je suis né. Il y a une église en face qui a la grâce d'être sans beauté. Donc du coup, quand il n'y a pas de séduction apparente, la pensée est amenée à son maximum, c'est du moins ainsi que je le conçois. Et puis dans cette rue, il y a une maison, et dans cette maison, il y a l'infini, c'est-à-dire ce qui circule entre les parents. C'est cette sorte de bain d'infini dans lequel se trouve, vous vous êtes trouvé aussi, dans lequel nos auditeurs se trouvent, dans lequel se trouve tout le monde en venant sur Terre, en ayant deux parents.
Je dois vous dire une chose, ma grand-mère est née au Creusot, et elle me disait toujours: je ne peux pas être enterré au Creusot. Donc, il faut quand même que je vous dise, il faut que je vous dise que vous m'avez réconcilié avec le Creusot,
oui.
Parce que vous ne parlez pas du tout du Creusot, de ce Creusot-là,
oui.
Précisément,
oui.
Dans lequel elle ne voulait surtout pas être enterrée,
oui.
D'ailleurs, elle n'y est pas enterrée,
oui.
Mais du bois de Saint-Cernin que nous avons,
oui.
Traversé pour venir, oui. Vous voir. Et finalement, maintenant, quand vous nous en parlez, on voit que ce terroir, vous y êtes attaché. Pas seulement à cause de la terre, mais aussi parce que c'est la terre qui a porté vos ancêtres.
Je ne sais pas si je dirais ça, parce que je ne sais pas si je... comment dire Oui, alors mes ancêtres, ce sont les oiseaux.
Voilà, je vous les présente, ils sont très nombreux. Alors, ils ont des costumes fabuleux, fabuleux. Le tailleur dans la famille était très bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'ai une attache, c'est une grosse feuille de platane, parce qu'il y a des platanes dans la rue d'enfance, et ces feuilles géantes, ici on dit feuilles, ces feuilles géantes, vous voyez, avec une petite attache comme ça, et qui sont aussi grosses, qui sont plus grosses qu'un livre de la Pléiade, et parfois plus mieux nourries d'ailleurs. Eh bien, si j'ai une attache, c'est ça, c'est des choses comme ça. Alors,
Les ancêtres, on peut en parler des ancêtres, oui, parce que de toute façon, plus je me suis engagé dans cette jungle qu'est la vie, plus j'ai senti et prouvé que les morts et les vivants se frôlent et conversent parfois et s'appellent. Je connais très peu de poèmes par cœur, presque pas. Mais il y a un vers de Verlaine qui m'ouvre la poitrine et qui me laisse déconcerté et ce qui pour moi est le sommet d'être du bonheur, c'est d'être déconcerté complètement. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne, c'est un vers de Verlaine. Je ne sais pas exactement à qui il s'adresse, mais ce cri lancé, pour moi, c'est celui de tous les vivants envers ceux qu'ils ont perdus. Et peut-être même se saluant eux-mêmes dans leur disparition prochaine. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne. Les voix, c'est vraiment... C'est la relique absolue, la voix. Curieusement, c'est la relique absolue. Je suis réservé sur ce qu'on appelle des reliques, sur les petits osselets comme ça. Mais par contre, je crois que par la voix, je touche l'âme. Comme on met la main sur un fil électrique, dénudé. C'est ça, voilà, vous voyez. Et excusez parce que je parle en digression, mais les ancêtres ne sont pas si loin dans ces histoires.
C'est comme vos livres, hein. Oui. Avec une suite de digressions. Mais pour revenir au Creusot, à cette région, vous vivez toujours.
Oui.
Moi, j'ai un peu l'impression, donc je commence un petit peu à vous connaître, je me dis au fond, vous êtes attaché au Creusot, mais vous seriez né ailleurs, vous seriez attaché au lieu où vous êtes né, c'est-à-dire que vous aimez ce qui est, vous aimez le réel, et donc il vous a été donné d'être né là, et vous aimez l'environnement dans lequel vous êtes né, parce que partout, vous savez voir la beauté.
C'est ça. C'est gentil de dire ça. Je ne sais pas si je sais la voir partout, mais comment dire, à la naissance, sans que je m'en rende compte, j'ai mis des années avant de m'en rendre compte, des dizaines d'années avant de m'en rendre compte, mais il m'a été donné une petite pioche de pensée pour creuser. J'aurais creusé partout de la même façon.
Il y a une phrase de vous que j'aime énormément, que je cite souvent. Vous dites qu'il y a autant de merveilles au fond de son jardin qu'à l'autre extrémité du monde.
Oui.
C'est ça.
Ça, j'en suis persuadé. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, le temps est inclément, mais peut-être qu'on ira dehors.
Non, il y a un rayon de soleil.
Il y a un rayon de soleil.
Et on ira voir les merveilles du fond de votre jardin tout à l'heure.
Et j'aurais voulu vous présenter une fiancée extraordinaire, mais malheureusement elle n'est plus là, c'était une fleur d'églantier, et parce qu'elle a été décapitée par le vent et la grêle. Mais oui, c'est mes proches surgissent de partout. À charge pour moi de les reconnaître, de savoir les entendre et les accueillir, mais ils surgissent de partout. J'ai une famille éparpillée, dispersée, et par moments, il y a un cousin ou une cousine qui vient. Et ma cousine, la fleur de glantier, je vous jure, elle était superbe. Elle était superbe, à peine maquillée.
Est-ce que vous avez eu le temps de parler d'elle dans un de vos livres ?
Je pense que je le ferai. Quand quelque chose vient aussi fort, émotivement, psychiquement et spirituellement, je sais que... Y a une grande chance que ça me donne un rendez-vous d'écriture ensuite. Puis en plus, ce qui est beau, c'est ce qui vous parle. C'est très rare qu'on vous parle. C'est très très rare que quelqu'un ou quelque chose parle. Mais quand la parole advient, passe par un vivant, et ce vivant peut très bien être une fleur ou un bout de bois mort, étrangement. Et bien quand la parole advient, à ce moment-là, tout est éclairé, à jamais, même les temps à venir, incertains, rudes, sont éclairés, vous voyez. Et l'écriture, pour moi, c'est préserver cette parole que j'ai entendue, ce que m'a murmuré cette fille de l'églantier, avec sa petite tunique rose et blanche. Eh bien, j'ai comme tâche, vous voyez, si je suis sérieux, hein, c'est pas très adulte, ça, c'est de s'occuper des fleurs et de se faire le secrétaire des fleurs. Mais j'adore ça, c'est un travail à plein temps.
Tout à l'heure, vous avez parlé de vos parents. C'est vrai que souvent, dans vos livres, et en particulier dans le dernier qui est apparu chez Gallimard, La Grande Vie, vous parlez beaucoup de votre père.
Oui.
Assez peu de votre mère. Parlez-nous un peu de vos parents, de ce qu'ils ont été, de cette voix qui continue à chuchoter dans votre âme.
C'est le soleil levant, mon père. C'est une voix que j'entends toujours, malgré un éloignement qui a une quinzaine d'années. C'est le soleil levant. C'est une confiance dans la vie, dans les siens et dans ceux qui venaient vers lui. Confiance qui parfois a été trahie. Mais ça n'avait pas d'importance. Ça n'avait pas d'importance. C'est ce qu'on appelle un homme, au fond. Alors c'est pareil, je disais tout à l'heure, c'est rare qu'on parle. C'est vrai, moi je l'éprouve comme ça et on pourra le préciser. Mais c'est rare aussi de rencontrer un homme. Et mon père était un homme de plénitude, les deux pieds sur terre, et puis sachant que rien n'est plus important que de porter aide, que de prendre soin. Voilà, porter aide, prendre soin, écouter. Et puis, si j'aime tant les fleurs, si j'aime aussi les animaux, je suis parfois touché plus encore par les animaux disgraciés que par les animaux à panache. Je sais que je le lui dois. Mon père avait un œil d'infirmier, des yeux d'infirmier comme ça pour la vie maltraitée, ignorée. Il avait l'œil des contes de fées, c'est-à-dire il va repérer la princesse sous les allures de la Souillon, voyez. Je lui dois tellement que c'est une dette qui me rend libre. C'est une dette, elle est tellement grande qu'il est évident qu'elle est impossible à jamais à rembourser. Et donc je n'ai plus qu'à m'en sentir heureux et à continuer à dépenser le bien qu'il m'a donné parce que c'est inépuisable, c'est inépuisable. Ma mère, direz-vous.
Je n'osais pas.
Parce que quand même, ils sont deux. Ma mère, elle est plus secrète, donc j'aurais, elle n'est plus là depuis un an, et j'aurais plus de mal à en parler. Sinon, qu'elle a fait comme elle a pu, comme chaque femme qui a des enfants, elle a fait le travail impossible qui lui était assigné, à savoir un travail d'engendrer, et puis surtout après de veiller, d'amener au mieux. Les gens qui lui sont confiés, les enfants. Ce travail, elle l'a fait, elle l'a bien fait à sa façon. Et la vie a été pas facile pour elle. Et je pense qu'elle m'a aussi à sa façon tout appris. Ce que je sais des mères, ce que j'écris des mères, je le tiens bien d'elle d'une façon ou d'une autre. Même si c'est peut-être parfois d'une façon paradoxale. C'est-à-dire, c'est aussi parfois par l'absence qu'on connaît la présence, c'est par le manque, c'est par la faim qu'on sait ce que c'est qu'un morceau de pain, qu'on sait exactement ce que c'est, qu'on le sait mieux que la personne qui a du pain toujours à volonté sur sa table, voyez. Elle a fait son travail, vous savez, les gens sont bouleversants quand vous commencez, si vous commencez vraiment à regarder les gens, vous êtes cuit. Vous êtes fichu parce que vous allez être bouleversé pratiquement à chaque fois. Pratiquement à chaque fois. Et vous allez perdre tout jugement, tout... Vous allez quitter même les rivages fleuris et bien ordonnés, les jardins à la française de la morale. Vous allez quitter tout ça et vous allez entrer dans un abîme de perplexité. Moi, je suis fait de ceux que je rencontre, je suis fait aussi de mes parents, c'est évident, et je suis fait aussi de leur, de tout, même de leur manque éventuel, même de leur faille. Et... C'est par ces failles aussi que j'ai sans doute vu la lumière. C'est très complexe, parce que c'est très simple.
Bien sûr, mais ce n'est pas un jugement que de reconnaître qu'il a pu avoir telle faille ou tel manque ou telle difficulté.
Non, mais c'est beau.
C'est reconnaître qu'il y a eu ça, mais ça peut être source de quelque chose qui nous fait grandir.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, vous le dites au début de La Grande Vie, quand, dans votre lettre à Marceline Desbordes-Valmore, vous expliquez qu'en fait, c'est ça, être poète.
Oui.
Dans une disposition d'hypersensibilité qu'on n'obtient pas si on est repu. C'est-à-dire, cette hypersensibilité qui fait que le poète est poète, lui vient de ses failles et de ses souffrances.
Oui, je crois.
C'est bien ça, être poète.
Oui, c'est ça, c'est ça. C'est une hypersensibilité. Je marque un tout petit temps d'arrêt parce que tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'image d'un mort. C'est-à-dire, pas un mort que je connaîtrais, un mort comme ça. Quelqu'un qui est dans cette apparence d'inertie et dans cet abîme de recueillement comme ça. Ce qu'on appelle quelqu'un qui a rendu son souffle, le dernier souffle. Et je ne sais pas pourquoi, je n'exclus pas que la sensibilité soit là aussi. Soit là aussi présent dans cette personne qui ne sait plus parler, qui ne sait plus dire, ni voir, ni toucher. Et je crois que la sensibilité, c'est comme une onde qui recouvre le monde, si vous voulez. C'est comme des flux. Les abeilles savent très bien suivre un chemin dans l'air invisible. Eh bien, je crois que les poètes... Mais les poètes ne font qu'un travail d'humain. C'est-à-dire que... dans un sens, tous les humains devraient être poètes, non pas au sens où ils écriraient, mais au sens où ils auraient un cœur saignant, plein d'échardes, et qu'ils consentiraient à avoir ce cœur-là. Parce que c'est ce qui donne les plus beaux rouges, c'est ce qui donne les plus... Un cœur comme les braises de cette cheminée, vous voyez, rougeoyant, et à la fois retenant sa puissance et la donnant, la changeant en chaleur, par courtoisie, au lieu de nous brûler. Tous les humains devraient être comme ça, je pense. Et les poètes sont comme les abeilles de l'invisible. Ils repèrent les champs de fleuris. Ils repèrent, ils vont, et puis ils reviennent. Et les mots, pour moi, des poètes, c'est la danse de l'abeille à l'entrée de la ruche, qui indique les voies de l'abondance. Voilà, c'est ça, la poésie. Voilà. C'est un secours donné à autrui, à qui veut. Et celui qui donne le secours est peut-être parfois le plus déchiré, comme par hasard. Mais c'est justement, il sait très bien ce que c'est qu'un secours. Vous voyez ? Je cause beaucoup.
Je voudrais décrire un tout petit peu le lieu où nous sommes pour les auditeurs. Oui. Donc nous avons déjà traversé les bois.
Oui.
Vous êtes une maison au bout d'une clairière au bout des bois. C'est oui. Déjà... très, très poétique comme endroit. Et puis, cette petite maison, il y a une grande pièce avec trois grandes portes-fenêtres. Et la dernière grande porte-fenêtre, qui est à côté de la cheminée, puisque vous avez la gentillesse de faire un bon feu de cheminée pour nous accueillir, alors qu'il fait un peu froid ce matin. Et je suis étonné de voir que vous avez laissé les volets fermés de cette porte-fenêtre qui est à côté de la cheminée. Du coup, on a un peu l'impression d'être dans une grotte, là. Et je voulais savoir pourquoi. Vous avez mis des bougies, et donc il y a une ambiance effectivement très tamisée. Je pense que très peu de gens, alors qu'on manque un peu de lumière, laisseraient les volets fermés. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça?
C'est parce qu'il faut tout accueillir, et il faut accueillir aussi le feu. Les lumières du feu vont être plus nettes, et leur parole nous parviendra plus sûrement si elles sont sur un fond un peu ténébreux. Vous voyez, peut-être ma hantise est de plus en plus de ne pas séparer. De ne pas séparer les vivants des morts, de ne pas séparer les immobiles des mouvants, de ne pas séparer les fleurs des nuages et les nuages des poèmes, et puis de ne pas séparer les ténèbres ou la dureté de la douceur et le clair du sombre. Et cette porte qui est fermée, en vérité, elle est ouverte au feu. Elle lui permet qu'il avance avec sa cape noire et rouge. Elle lui donne une petite majesté supplémentaire.
Non, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux le feu, on en profite beaucoup plus.
Oui, mais oui, parce que sinon, il serait dévasté par la lumière.
On ne le regarderait pas, voilà. Et ce serait une présence dont on ne profiterait pas vraiment.
Voilà.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir. Lélie Onvar.
En fait, vous dites bien, je vais chercher là-bas de quoi éclairer ici. Ce qu'on appelle poésie, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je cherchais là-bas de quoi éclairer ici. Parce que c'est ici qui importe. C'est ici que tout se joue. C'est même entre nous que tout se joue, à chaque fois. C'est dans le face-à-face, c'est dans le vis-à-vis. Et il y a des guerres qui sont amenées, qui ne sont pas, je vous rassure, meurtrières, mais qui, comment dire... Peut-être que nous sommes tous des soldats un peu qui avons perdu notre armée et que des soldats de quoi ? Engagés par qui ? Mais je dirais engagés par le ciel, mais le ciel c'est le nom de la terre, c'est le nom de cette vie qui nous est donnée, ni plus ni moins, la vie qui passe et qui vient et qui s'en va. Nous sommes à son service, ou nous devrions l'être, et nous devrions engager nos forces pour elle, parce que c'est la plus pauvre des pauvres. Donc c'est la reine, c'est à ça qu'on reconnaît une reine. C'est pas la puissance, c'est à l'inverse. C'est à son écrasement, c'est aux meutes qui la traquent. Et la vie aujourd'hui, elle est menacée incroyablement d'ailleurs. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tous les chiens de l'économie qui sont accrochés à elle, il y a, entre autres. Et je pense que c'est ça qu'on a à servir. C'est pour ça que en écrivant, on essaye de constituer des petits bataillons, voyez, des petits bataillons de langage.
Mais là, moi, j'adhère très très fort à ce que vous dites. Je sens qu'on est dans un monde où la plupart des gens ne voient plus que le visible, le plus tangible, le plus matériel, qu'on ne sait plus voir l'invisible.
Le plus bruyant, oui.
Le plus bruyant, celui qui est le plus bling-bling, on pourrait dire au sens fort du terme. Et donc, au fond, le poète est là pour nous montrer l'invisible, pour nous dire l'invisible, pour nous dire ce qui est présent, mais qu'on ne voit pas, qu'on capte pas, si on ne prend pas le temps d'être attentif, d'écouter ce qui se passe dans son cœur, de regarder l'autre. Et je crois que le succès extraordinaire de vos livres est un révélateur qu'on a besoin de plus en plus dans ce monde qui est extrêmement dans l'extériorité, de gens qui nous disent l'intériorité des choses, du monde et de l'être.
Oui, je pense que c'est possible que le meilleur de nous, de chacun de nous, n'ait jamais été attaqué aussi vivement, aussi fortement. C'est possible parce que il y a une confluence. Le monde a toujours été ce que j'appelle le monde, c'est-à-dire ce ne sont pas les gens le monde. Le monde, c'est ce qui pèse sur nous, et c'est ce qui nous persuade de ne pas être nous-mêmes et de ne pas risquer nous-mêmes notre peau. Eh bien, le monde a toujours été, vous êtes un lecteur des évangiles, le monde a toujours été, comment dire, pesant.
C'est un conditionnement
pesant,
qui loue.
Voilà, ouais. Voilà. Et c'est vrai que, comment dire, oui, il est nécessaire de tenir, de résister, et que je pense que nous sommes peut-être des victimes qui nous ignorons, et des victimes qui, curieusement, consentent, vont au sacrifice. Et l'écriture, telle que je la conçois, la réflexion, la pensée, le songe, le simple fait même de respirer en n'abîmant pas trop les atomes et les abîmes de l'air, ces choses-là, très simples, permettent peut-être de donner d'autres chances à ce qui est vivant. La mort, celle qui n'est pas notre amie, parce qu'il y en a une qui peut être notre amie, mais la mort dans la vie, la mort dans les livres, la mort dans les paroles, la mort dans les yeux, la mort a lancé une attaque phénoménale contre nous tous, je crois. Et la beauté, la grâce, la fantaisie, des choses comme ça, permettront peut-être de répliquer. Je m'appuie beaucoup, entre autres, sur la présence de plus en plus actuelle de quelqu'un qui n'est plus, apparemment, Jean Grosjean. Et j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre de lui, j'ai relu un livre de lui qui s'appelle Clausewitz, et qui est fait du dialogue de quelques généraux prussiens. Mais on sait que la Prusse, chez lui, c'est juste le nom très pudique qu'il donne à l'âme résistante. Et j'ai trouvé là-dedans qui n'est pas l'essentiel du livre, ou alors qui est son essentiel cachée, j'ai trouvé une des plus belles histoires d'amour jamais écrites, entre un officier et la servante qui l'abrite. C'est un officier occupant et il y a une servante chez qui il loge. Il n'y a pratiquement aucun mot entre eux, que des mots très, d'une pudeur. Mais même, je ne suis même pas sûr que les fleurs d'églantier atteignent à cette pureté-là de pudeur. Voyez. Et ce sont ces choses-là infimes. Je vous parle de choses infimes, là. Je vous parle d'un livre de quelqu'un qui n'est plus là. Et je vous parle d'un de ces livres qui n'est pas les plus accessibles, qui n'est pas les plus simples. Et je vous parle d'une histoire qu'il a lui-même cachée à l'intérieur. C'est-à-dire une graine de graine de graine, quelque chose de tout petit. Mais c'est ça. Après tout, dans l'Évangile, on parle bien des choses qui se développent à partir de pratiquement rien.
Et là, qu'est-ce qui vous a touché dans cette petite histoire?
Et ben, c'est le peu de mots entre cet officier et cette femme. Il y a un moment, par exemple, où il est frôlé par une parole qui est là, et il ou elle, je ne sais plus, un des deux dit à l'autre, « Je vous en prie, ne touchez pas mon âme, ne touchez pas mon âme. » Et cette parole fait comprendre mieux que des tonnes d'ouvrages de théologie ce que c'est que l'âme, c'est-à-dire c'est la brindille, le brin extrême de la... Si, comme je le crois, dans la poitrine, nous avons un noisetier, eh bien la plus fine branche, la plus fraîche, la plus jeune et la plus risquée s'appelle l'âme. Et il ne faut laisser personne la toucher, pas même un amoureux ou une amoureuse. Vous voyez, c'est pas Grosjean qui le dit, mais c'est lui qui m'autorise à le dire, qui délivre cette parole par le bonheur que son livre me donne. Vous voyez. Et quand cet homme, cet officier, rentre dans son pays... parce qu'on ne peut pas être éternellement occupant d'un pays envahi, il rentre, il monte à cheval, et elle a juste un frôlement comme ça de main sur la botte du cavalier. C'est tout. Et ce frôlement est peut-être, et sans doute, plus brûlant et plus ardent d'érotisme que bien des ouvrages, et que tout ce que le pauvre Occident a cru trouver dans l'érotisme.
Puisque vous parlez de Jean Grosjean et de ces livres qui vous habitent, comme autant de frôlements sur votre âme, vous parlez très souvent de cela, c'est-à-dire qu'une œuvre pour vous, c'est une âme qui vous parle, oui. Qui vous frôle, qui oui. Vous caresse, qui vous embrase. Est-ce que vous nous emmèneriez visiter votre bibliothèque
très
pour que l'on voit?
Très volontiers, allons-y.
Quittons, traversons voilà. Le salon pour aller dans votre bibliothèque et en même temps votre petit bureau.
Voilà.
Où vous travaillez, donc on va découvrir ce lieu voilà. Où vous travaillez, vous lisez.
Grand voyage.
Grand voyage, à une dizaine de mètres.
J'espère que tout se passera bien.
Et vous voyez qu'il y a un rayon de soleil, on va pouvoir
oui.
aller.
On va pouvoir aller. Voilà. Voilà. Allez, tutoyer les fleurs. Magnifique ce grincement, hein. Allez-y. La radio, en fait, c'est un livre d'air.
Oui,
hein, c'est un livre d'air. Tous les sons. Hein.
Et c'est vrai que ce qu'on voit en premier dans le bureau,
ouais.
Ce ne sont pas les bibliothèques de livres, mais bien cette fenêtre ouverte sur
ah
le
oui.
jardin
ah oui.
que vous décrivez maintes fois ah dans oui. vos livres et à travers lequel vous regardez le
oui.
monde naître et mourir chaque jour et renaître chaque
oui.
matin.
Parce que je vais vous donner un scoop. Hein? Attention, hein? Un scoop. Eh bien, je pense, on pourrait presque dire que j'ai une enfance agoraphobe, c'est-à-dire cloîtrée avec des murs de papier remplis de textes et puis ne sortant presque pas, même dans la rue. C'est quelque chose qui s'est métamorphosé, qui a passé. Mais j'en ai gardé, pour moi, une maison. Ce n'est pas ce qui est tellement ce qui est dedans, c'est ce qu'on voit à partir de la maison quand on regarde par une fenêtre. C'est-à-dire le grand large. Le grand large que je n'osais pas prendre avant, mais que j'ai pris en écrivant. Voyez. Et là, c'est une fenêtre, comment la décrire? Elle est toute pauvrette, hein. Elle a des croisillons blancs, et puis elle donne sur un pré, et sur un chêne, qui est la tanière, le repère des geais. Encore hier, je regardais des jets qui sautillaient dans l'herbe.
Et la pièce, ouais. Votre bureau, bibliothèque, est toute petite.
Oui, c'est tout petit.
C'est une toute petite pièce avec des murs recouverts de livres.
Ouais.
Et un beau lit quand même qui prend les deux tiers de la pièce. Ouais. Donc ça, ce que vous allez faire la sieste de temps en temps, entre deux moments d'écriture.
Oui. Ouais. C'est comme un repos où c'est pour on lit parfois mieux. On lit
allongé
que à table.
Et alors, je vois là. Oui. À la gauche de la fenêtre, le miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porret. À droite, Simone Veil et Marceline Desbordes-Valmore.
Oui.
Vous êtes flanquée de femmes qui vous inspirent.
Oui, mais elles sont paisibles, hein. Elles sont paisibles. Elles sont de papier. Et Marguerite Porret, les âmes simples et anéanties, je lui dois beaucoup, beaucoup. Elle était brûlée pour ses mots par l'Église et comment dire, il y a eu un moment où j'ai flambé, mais comme un rosé, comme un buisson, j'ai flambé pour les troubadours et ce qu'on appelle les mystiques. Et son livre est construit avec un langage de l'époque, c'est-à-dire elle fait parler l'amour, elle fait parler l'âme, elle fait parler la raison. Et ça, c'est une rhétorique très... c'est un peu la rhétorique des troubadours qui me ravissait. Et puis j'aime cette femme par son excès. J'aime qu'une femme tienne tête à toute l'Église entière. Et j'aime les... je crois que c'est quelqu'un à propos de Port-Royal, à un moment, dit puisque les filles de Port-Royal ont été très peu soutenues quand les attaques sont venues contre elles, une d'elles a dit, puisque les évêques qui étaient censés les aider et qui ne les étaient pas, au contraire, puisque les évêques ont un courage de filles, alors il faut que les filles aient un courage d'évêque.
Et je vois qu'en fait, il y a une... c'est vrai que de l'autre, presque en face du miroir des âmes simples et anéanties, je vois la passion de halage, donc... C'est un peu la même veine, brûler d'amour, c'est brûler d'amour et être tué par l'institution au nom de la vie même.
Oui.
Et la présence de la mystique soufie, et en particulier de la poésie persane, m'impressionne, je dois dire.
Oui, il y a aussi Rumi.
Parce qu'il y a presque tout Rumi traduit en français, il y a Attar. Donc vous êtes ouvert à tous les vents.
Complètement. Je me méfie un petit peu de ce qu'on appellerait un syncrétisme, c'est-à-dire une sorte de nappage comme ça, un peu comme pouvait faire Teilhard de Chardin. Il faut que chaque épice ait sa saveur. Et elle vient de son Orient ou de son Occident. Elle a telle couleur. Il faut pas l'affadir. Donc il y a un humus, il y a une terre favorable à certaines pensées et où d'autres ne viendront pas. Mais il y a un point commun. Cela dit, il y a une source commune. Ça, je le ressens. J'aime ce qui me rend à moitié fou et plus qu'à moitié. et donc Rumi, quand je lis Rumi, c'est comment dire, j'ai un plaisir mais d'enfant. Il n'y a pas de plaisir plus grand que le plaisir enfantin, comme de faire tomber par terre une caisse remplie de billes. Voyez. Donc ça fait un tatamarre incroyable. Et c'est... La poésie arabe et la pensée arabe est d'une générosité qui ressemble à leur goût pour les arabesques, d'ailleurs. C'est une générosité invraisemblable. Une luxuriance qui se rapproche de celle de la nature, mais qui n'est pas décorative en même temps.
Alors je suis moins frappé, évidemment... Lélie remarque tout de suite les livres des mystiques soufis. Moi, je suis frappé par les philosophes, et notamment Montaigne. Et je vois que vous avez les essais de Montaigne dans 4 éditions différentes. Alors là, je me dis bravo, que moi, j'en ai que 3. J'ai rencontré un fan de Montaigne, encore plus fanatique.
Ah bah oui.
Alors Montaigne, vous l'avez lu à quel âge? Comment il vous a touché?
Je le lis toujours.
6 éditions.
Mais vous l'avez découvert, vous l'avez découvert étudiant?
Non, je l'ai découvert il y a... Vraiment découvrir au sens où on est amoureux, ben, je dirais il y a une vingtaine d'années. Avant, j'en avais une connaissance livresque, une connaissance scolaire, qui sont des connaissances desséchées, qui sont des connaissances de momie. Mais tout d'un coup, plus je me suis senti vivant, plus cet homme m'est apparu vivant, plus j'ai trouvé mes... non pas mes frères, ça serait présomptueux de dire ça, mais plus j'ai compris ce que c'était cet homme. Oui. Vous savez à quoi il me fait songer ? Cette sorte de sagesse qui va dans tous les sens, comme ça, qui se rit d'elle-même. Ça me fait songer à la bouche en escargot des tout-petits, quand elle est barbouillée par des confitures ou de la bouillie. C'est-à-dire que tout le savoir du monde est venu se mélanger dans ses livres comme la bouillie sur les lèvres d'un nouveau-né, d'un tout-petit. Et c'est adorable à voir. Et ça donne une sagesse qu'il est impossible de préciser, qu'il est impossible de renfermer, qu'il est impossible de contenir. Et j'ai en mémoire une phrase de lui, qui pour moi est comme emblématique de beaucoup de choses. Ces choses tendres et aisées à troubler que la vie. En plus, quand vous lisez ça dans la langue de l'époque, c'est-à-dire quand vous... Le mot aisé, il y a un Y, c'est magnifique. C'est magnifique. Quand j'aime quelqu'un, là il y a beaucoup d'éditions de Corneille, aussi, enfin, il y a au moins deux éditions de Corneille, mais quand j'aime quelqu'un, j'ai envie d'un auteur, j'ai envie d'avoir... je cherche l'édition absolue. C'est celle qui sera la plus gentille pour mes mains, pour mes yeux. C'est celle que je la trouve jamais. C'est-à-dire, j'en trouve des morceaux dans telle édition, et puis dans voilà.
Oui,
il y a Rimbaud aussi.
Il y a Pascal.
Oui.
Il y a Pascal.
Marceline Desbordes-Valmore.
Oui, j'aimerais bien que vous nous en disiez un mot, puisque c'est quand même dans votre dernier livre, le premier chapitre est consacré à Marceline Desbordes-Valmore. Et je vois que vous avez énormément d'éditions de son œuvre, complète ou pas.
Oui.
Enfin, les lettres, les poèmes. Et c'est vrai, peut-être nos auditeurs ne connaissent pas si bien que ça Marceline Desbordes-Valmore, qui est une immense poétesse, à mes yeux. Et on ne la connaît peut-être pas assez. Alors, dites-nous quelques mots de cette couleur rose qui vous fascine tellement chez elle.
Oui, c'est la couleur de l'invisible que je trouve dans ses poèmes. Il y a encore quelques temps, j'attendais dans une salle d'attente d'un hôpital, et j'avais emmené un livre d'elle. Eh bien, les murs de l'hôpital sont tombés comme une poudre. Les blouses blanches se sont envolées comme des papillons incertains. Et puis, ce qui restait, c'était ce qui tenait, par contre. J'ai vu que ça s'est fait pour tenir pour l'éternité. C'était la voix fragile de cette femme. Et c'est parce qu'elle est fragile qu'elle tient pour l'éternité. C'est une voix, comment dire, elle a beaucoup souffert, hein. Elle a vu beaucoup de ses enfants mourir, mais elle a une grâce, un signe que je ne sais pas comment qualifier. On ouvre son livre et elle est là. Elle est sortie de son 19e siècle et elle est là. Et elle nous parle de choses que nous connaissons tous aujourd'hui. Parce que qui n'a pas été trahi, qui n'a pas eu le cœur fendu à la hache d'une mort, qui n'a pas de l'annonce d'une mort de quelqu'un, qui n'a pas espéré déraisonnablement d'un visage entrevu, ce qui peut s'appeler, cette folie-là peut s'appeler tomber amoureux, qui n'a pas connu ça, ou qui ne le connaîtrait pas. Et cette femme nous parle à ces atomes qui nous composent, qui sont bien plus fondamentaux que les autres qui se sont agglomérés après, les atomes de nos coutumes, de nos croyances même. Elle parle à l'intérieur du cœur. Elle est comme assise. Si vous voulez, j'en prendrai au hasard un petit morceau.
C'est ce que j'allais vous proposer, voilà. C'est exactement ce que j'allais vous proposer.
Allez-y.
Elle est assise dans mon cœur quand je la lis. Elle a un petit fauteuil doré, à dossier rouge, et elle dit ceci, par exemple. Regardez le plus beau bruit du monde, à part celui d'un feuillage. D'ailleurs, celui d'un feuillage est à voir. Oui, celui d'une feuille de papier. Mémoire. Étang profond couvert de fleurs légères, lac aux poissons dormeurs tapis dans les fougères. Quand la pitié du temps, quand son pied calme et sûr enfonce le passé dans ton flot teint d'azur, mémoire, au moindre éclair, au moindre goût d'orage, tu montres tes secrets, tes débris, tes naufrages. Et sur ton voile ouvert, les souffles les plus frais ne font longtemps trembler que larmes et cyprès. Juste un autre extrait où elle s'adresse, parce que ses poèmes sont souvent adressés à quelqu'un, et c'est ce qui la rend encore plus émouvante peut-être que ce que je viens de lire. Ce que je viens de lire, pour moi, était parfait. Sur le texte sur la mémoire, c'est un texte sublime. Mais peut-être ça, juste deux, trois lignes. Voyez, parce que ça, C'est le cœur du cœur de Marceline Desbordes-Valmore. Que de portraits de toi j'ai vus dans les nuages. Que j'ai, dans tes bouquets, respiré de présages. Que de fois j'ai senti par un nœud doux et fort ton âme s'enlacer à l'entour de mon sort. Quand tu me couronnais d'une seconde vie, que de fois sur ton sein je m'en allais ravi et reporté au champ que mon père habitait quand j'étais blonde et frêle et que l'on me portait, que de fois dans tes yeux j'ai reconnu ma mère. Puis ça continue comme ça. C'est consolateur avec du réel, parce que sinon on n'est pas consolé quand c'est pas du réel. Je la kiffe.
Le mot du poète.
Corrompu par le langage d'aujourd'hui.
Attends, puisqu'on est dans ce lieu, vous écrivez aussi. Je voudrais savoir si vous avez des habitudes d'écrivain ou pas tellement.
Est-ce que non, pas tellement.
Écrivez aussi bien le matin que l'après-midi.
Par exemple la fleur de l'églantier dont je vous ai parlé, elle me siffle, elle m'interpelle. Et
c'est
bon. Quelques temps après, je viens et j'écris. Ouais. Et quand j'ai été vraiment touché, je peux rester une semaine sans écrire. C'est pas grave, ça ne partira pas. Il ne faut pas trop laisser passer le temps quand même. Mais une semaine, c'est bon encore. Je ne prends pas de notes. Mais simplement, je sais que... Parce que ça m'a rendu malade, cette fille m'a rendu malade, hein, la fleur de l'églantier. J'étais tout seul dans le jardin, mais j'aurais réveillé le monde entier pour en parler. Vous voyez ? Et je vais essayer de le faire en écrivant.
Culture, les racines du ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Ce qui me touche dans le coucou, c'est qu'il est un petit peu désespéré. Il n'y croit pas complètement, il ne croit pas qu'on va venir à son appel, voyez ? Hein, voyez, continue, je vois votre visage, ouais, vous voyez, je vois que vous avez vu le truc. Il appelle comme ça, comment il fait ? Coucou ! Coucou ! Et puis on sent, et c'est déchirant, c'est très humain, parce que en fait, il voudrait bien, il appelle pour qu'on vienne, pour que quelqu'un vienne, pour que Mademoiselle Coucou vienne, par exemple, vous voyez ? Mais, ou Monsieur Coucou, hein. Mais il n'y croit pas vraiment, je le sens, moi, ça. Il n'y croit pas vraiment. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il se répète, hein, sans arrêt.
Oui.
Il ne doit pas avoir beaucoup de visites, je sens. Vous voyez, c'est ça qui me... Elle était là, la fleur de l'églantier, vous voyez ? Et maintenant, elle n'y est plus. Mais je pense que je la ferai revenir dans une page. Elle était là, à peu près à cet autour-là, parce qu'elles sont nombreuses. Là, je vous montre l'ensemble que ça fait. Et évidemment, c'est inimaginable maintenant. Mais alors, on est devant la preuve de la résurrection. Pour moi, c'est que c'est le Verbe qui fait ressusciter. C'est le Verbe, la résurrection. La racine de la vie, c'est celle commune aux arbres et aux vivants et à tous. C'est le Verbe, c'est le langage. Et par le langage, je me propose, je vais essayer. Quand on essaye, on peut louper, hein. Mais je vais essayer de la faire revivre à jamais. Que vous la voyez, vous, comme on ne peut pas la voir aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous avez ému sur cette fleur ?
Eh bien, j'étais entré dans ce jardin où on se trouve, là, en ce moment. Il n'y avait pas les chorales de Jean-Sébastien Bach, comme on les entend en ce moment-là. Nos amis qui ont l'air très joyeux. Oui. Hein ? Mais moi j'avais des soucis, même une angoisse, une inquiétude. Et
Donc j'ai fait quelques pas dehors, comme on veut aérer, on veut aérer sa chambre mentale, comme ça, faire venir de l'air, chercher une solution. Je passe à côté de ce groupe de filles, comme ça, de ce pensionnat de l'Églantier. Il y en a une particulièrement. Je l'ai trouvée tellement, tellement fragile, tellement parfaite. Elle était éclose, elle n'était pas encore, elle était au bord de sa mort annoncée, mais elle n'y était pas encore. Donc elle était au sommet en même temps. Elle avait cette grâce qu'on va trouver dans les... Vous savez, les peintres, souvent, ils disent que vers la fin de leur vie, ils commencent à peine à peindre. Elle avait cette grâce de l'extrémité de la vie. Et cette jeunesse incroyable qui n'était pas, si je puis dire, biologique ou végétale, qui était une jeunesse quasiment d'esprit. C'est du moins ainsi que je l'ai vue. Et je me suis rapproché pour la voir. En me rapprochant, je me suis un petit peu penché, mes soucis sont tombés par terre. Je ne les ai plus retrouvés. Elle m'avait délivré. Elle avait fait ce que des psychanalystes ou ce que tout autre humain peut-être aurait eu du mal à faire dans l'instant. Elle m'avait délivré de moi, parce que c'est jamais que nous-mêmes qui nous pesons, qui nous encombrons. Et puis j'ai continué à la regarder et j'ai tout admiré, quoi. J'ai tout admiré. L'intérieur faisait comme un calice blanc, assez ouvert, et le bord des pétales était d'un rose, mais très... Pour moi, c'était un rose qui trempait dans l'infini, et comme une tache au bas de la robe d'un ange. Et elle avait des sœurs qui étaient un peu abîmées déjà. Celle-ci, elle était parfaite. Et peut-être que être parfait, c'est juste avoir la capacité de guérir quelqu'un de sa peur, de lui enlever sa peur, peut-être. Elle l'a fait, ça. Je ferais mieux d'écrire tout ça, au fond. Hein.
Ça en vaut la peine. Je sens que c'est mûr.
Oui, on va
vous laisser, tout ça. On va vous laisser, parce que je sens que vous allez écrire tout de suite.
Mais je voudrais dire aussi, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant.
Oui.
Vous parliez du chant des oiseaux et vous avez dit, vous voyez. Et finalement, c'est peut-être ça la poésie. De pouvoir transformer
ce qu'on entend
en vision intérieure.
En vision intérieure, oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Vous avez dit, vous voyez le chant des oiseaux.
Oui, j'aurais dû dire, logiquement, vous entendez.
Et absolument. Mais en fait, non, vous nous les avez fait voir.
Oui, mais on est d'accord.
Comme vous nous avez fait entendre les glantiers.
Oui, c'est vrai. On prend un bloc du réel et on le transpose dans un bloc voisin. Ce qu'on entend, on le fait voir. Ce qu'on voit, on le fait entendre, et ainsi de suite. Et donc, toute la maison de l'esprit est en déménagement perpétuel. Et ça marche comme ça. Ça marche bien. Oui, ça marche bien.
Et on peut même y ajouter les caresses et les odeurs.
Voilà, aussi. Mmh. Oui.
Donc c'est...
Elle avait une très belle odeur, la petite, là. Mmh, très, sûr. Très belle. Oui. Très légère, très discrète.
Donc la nature est de manière récurrente pour vous, quand même, un des lieux principaux d'inspiration de votre écriture.
Oui. Oui, elle est d'une bienveillance incroyable. Elle est... Oui, bien sûr. C'est comme un livre.
Et est-ce que c'est un livre qui parle de... Je vais employer un gros mot. Qui parle de Dieu pour
vous. Oui, la réponse est oui.
Je m'en doutais.
La réponse ne tarde pas. Bien sûr, oui. Oui, bien sûr.
Mais Dieu se promène à toutes les pages de vos livres. Comme à toutes les...
Oui, alors encore faut-il l'entendre.
Dans tous les pétales.
Encore faut-il l'entendre. Mais vous savez, avec le goût prononcé que vous avez pour Rumi, Attar et quelques autres, vous savez que, comment dire, Dieu et non-Dieu, c'est pareil. Dieu et... C'est pas ce qui est accroché à jamais au mur des églises, c'est pas ça. Je vais plutôt le voir dans une clochette de Muguet que dans une église un peu sévère et humide, voyez. Je suis d'ailleurs étonné, je me suis demandé souvent pourquoi les églises étaient si sévères. Pourquoi elles n'avaient pas la gaieté d'un poème comme ça.
C'est parce qu'on y parle trop de Dieu et qu'on le rencontre peut-être pas assez dans le silence. C'est vrai qu'à vouloir trop parler de Dieu, on finit par en faire une forme d'idole. C'est-à-dire qu'on fige, on l'objectivise. Alors qu'il faut le laisser parler à travers tout l'invisible, présent dans le monde, dans la nature, dans le regard des autres.
Et il y a des bougies.
Et les bougies.
Les bougies, elles ont une très très belle parole, les bougies. Parce qu'elles tremblent, elles dansent, elles prient à notre place. Ah, les bougies, c'est ce qu'il y a de mieux dans les églises.
Voyager, hein, parce que
oui, voilà.
L'imaginaire
part. C'est ce qu'il y a de mieux dans les églises, oui. Puis en plus, elles passent. Contrairement à l'église qui a prétention de rester. Mais en même temps, c'est compliqué cette histoire, parce que c'est bien aussi qu'il y ait quand même des clergés, hein, de tous ordres, que ce soit... Que ce soit dans les religions dites du livre, par exemple, ou même dans le bouddhisme aussi, il y a évidemment des sortes de clergés. Mais c'est grâce à eux que les livres nous parviennent. C'est grâce à eux. C'est grâce à leurs imperfections même que les livres nous arrivent. On est bien sérieux, là, tout d'un coup.
On est tout calme.
Mais je suis sûr que quand vous êtes dans la nature comme ça, il y a des moments où vous devez vous arrêter de penser.
Ah oui.
Pour simplement dire merci.
Ah oui, oui. Mais là,
parce que
là, je parle d'abondance, mais parce que je suis avec vous. Et parce que c'est la parole qui me mène, et c'est la parole qui me fait voir aussi. C'est très curieux. C'est en parlant que je vois ce que j'ai vu. C'est en parlant que je vois ce que j'ai vu. Je l'ai vu. C'est incontestable. Mais j'ai besoin de le dire pour le voir. Et secondairement de l'écrire. Vous voyez ? Mais la plupart du temps, la vie, elle est silencieuse et taciturne, oui. Oui, c'est comment dire ? Vous le connaissez, ce petit texte d'un zen à propos des oiseaux, un maître qui s'assoit tous les jours devant ses disciples et qui énonce la leçon du jour. Et puis un jour, au moment où il s'assoit, il y a un merle qui chante dehors. Alors il s'assoit dans son fauteuil. Il laisse le merle chanter et puis il se lève et il dit là, ce sera tout pour aujourd'hui.
Ben moi je vous propose qu'on termine sur cette parole et d'accord. Qu'on reste en silence quelques instants avec un silence qui est habité à d'accord. La fois par tout ce que vous venez de nous dire et puis par le chant des oiseaux.
D'accord.
Merci beaucoup Christian Bobin de nous avoir accueillis.
Merci à vous. C'était une vraie joie.
Réciproque. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Je rappelle que vous pouvez podcaster cette émission et la réécouter pendant 1000 jours. Très beau dimanche à tous. Dis-moi quoi